Radio Perrier et rêvez toute la journée la radio pétillante et rafraîchissante. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Perrier. Nous sommes Tom,
Margot,
Evan.
Et avec nos camarades de l'école publique du Perrier, nous vous avons préparé une émission spéciale sur le Marais vendéen. Nous allons vous parler de la gestion de l'eau dans les marais, de la vie des habitants dans ce paysage marécageux, mais aussi de tous les animaux et végétaux qui habitent dans les canaux. Et enfin de ce paysage qui a inspiré des artistes comme Charles Milsando.
Tout d'abord, nous avons interviewé Julie Aïssaguer, chargée de mission Natura 2000, pour comprendre comment les hommes ont façonné le marais au cours de l'histoire. Une interview de Charlotte et des Devan et Margot.
Est-ce que le marais est un paysage naturel ou bien a-t-il été fait par l'homme ?
En fait, avant, c'était une baie. C'était la mer, là, sous vos pieds, il y avait de l'eau. C'était la baie de Bretagne. Et en fait, c'est l'homme qui a travaillé pour créer le marais. Donc, c'est pas du tout un paysage naturel. Ça a été vraiment fabriqué par l'homme.
Depuis combien de temps existe-t-il ?
Alors, c'est un long procédé, puisque la baie, elle a commencé à se combler de sédiments il y a très longtemps. Ensuite, à peu près au XIIe siècle, il y a eu des premiers marais salants, en fait, qui ont été créés sur ces sédiments, donc sur l'ancienne baie. Donc, une première terre, en fait, qui a été gagnée sur la mer. Et ça, jusqu'au XVIIIe siècle, à peu près. Et puis après, l'activité du sel était moins rentable, c'était moins facile d'en exporter vers l'Europe du Nord. Et on a transformé ces zones de marais salants plutôt en pâturage, donc une valorisation par l'agriculture. Donc c'est un long processus qui a abouti en fait au marais tel qu'on le connaît aujourd'hui.
À quoi sert le marais ?
Alors le marais, il sert à plein de choses en fait. Hein. Il sert déjà à la biodiversité, parce que ça c'est mon travail. Il sert aussi aux crues, donc à recevoir l'eau. On le voit bien là en ce moment, il y a beaucoup d'eau sur le marais. Les prairies, elles vont servir aussi à filtrer l'eau, en fait. Elles vont permettre à l'eau qui va arriver ensuite dans la baie de Bourgneuf d'avoir une meilleure qualité. Ça sert pour les agriculteurs qui mettent des animaux pour le pâturage. Ça sert pour vous, pour les promeneurs, pour les touristes. C'est des activités récréatives. C'est un paysage agréable également.
Y a-t-il souvent des inondations ?
Oui, il y a souvent des inondations et jusqu'aux années 60-70, le Perrier était pendant 4 mois sous l'eau en fait. Les gens, ils se déplaçaient en yole, etc. C'était beaucoup plus inondé qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a quand même encore des périodes d'inondations du marais.
Est-ce qu'on peut les éviter ?
On peut les éviter en anticipant les pluies, donc en regardant bien la météo et puis en vidant le marais. En fait, le marais, c'est des canaux avec des écluses, donc des ouvrages qui sont fermés ou ouverts. En ce moment, ils sont plutôt ouverts pour permettre d'envoyer l'eau qui est dans le marais dans la baie de Bourgneuf, qui est l'endroit où toute l'eau du marais va finir sa course, en fait.
Faut-il les entretenir ?
Alors, les canaux du marais, donc ces 7000 km, là, oui, ils ont été entièrement créés. Donc, si on ne fait rien, au fur et à mesure, ils se comblent. Et donc, oui, il faut pouvoir les entretenir.
À quelle fréquence ?
Alors, en marais doux, on dit qu'il faut y retourner à peu près tous les 10 ans. Et dans la partie plus salée, donc un petit peu plus loin de la commune, on peut y revenir moins souvent, tous les 15 ans. Donc, pas tous les jours.
Comment vivre dans cet environnement marécageux ? C'est la question que Nolan, Mathis, Lilou et Arthur ont posée à Bernard Beau qui vit au Perrier depuis 3 générations.
Avez-vous connu l'époque où les habitants se déplaçaient en yole dans le marais ? Si oui, pourriez-vous nous expliquer ?
Oui, j'ai connu. Chez moi, non, parce qu'on avait la chance que mon grand-père achetait une parcelle, en 1921, qui était assez haute et qui était en bordure d'une route importante. Mais par contre, toutes les petites routes qui sont actuellement autour, c'était des charreaux en terre. Et là, par contre, pendant 6 mois de l'année, on ne pouvait pas passer. Par exemple, pour aller à l'école, des gamins de votre âge, les parents ils prenaient la yole, ils les emmenaient jusqu'à la route, par exemple, jusque chez nous, et ils partaient à pied après. Ça a duré jusque dans les années 60-70. Et après, des routes ont été faites.
Comment votre maison est-elle construite ?
C'est une maison en pierre. Enfin, la maison de mes parents était en pierre. Elle a été construite par mon grand-père quand il est revenu de la guerre de 14. Donc il y a 100 ans que la ferme existe.
Y a-t-il des aménagements particuliers pour gérer la montée des eaux dans le marais, dans votre maison?
Je vous dis, d'abord, ils ne construisaient pas dans les parties basses. Enfin, voilà, donc c'est déjà une première chose. Après, bon, non, il n'y a pas de... Ils surélevaient un petit peu les planchers, forcément, mais bon, quand on vit dans une région comme ça, on ne va pas creuser pour faire une maison, c'est clair. Hein.
Aimez-vous les Juifs, pourquoi ?
J'y suis né, j'ai travaillé toute ma vie à la ferme, donc oui, c'était ma vie. Puis j'y suis encore. Donc voilà. Oui, c'est plaisant le marais. Parce que c'est une région naturelle qui est particulière quand même. Voilà. C'est une région qui est agréable. La preuve, il y a beaucoup de gens qui y viennent. Donc voilà.
Avez-vous déjà subi des inondations ?
Dans la commune, je n'ai pas le souvenir d'avoir connu des maisons qui étaient été inondées. En 60, par exemple, je me rappelle, j'avais 8 ans, il y avait de l'eau dans la cour. Ça durait 6 mois de l'année, mais il n'y en a jamais eu dans les maisons. Mais par contre, actuellement, avec les nouvelles lois, les maisons qui se construisent dans le marais actuellement, ils sont obligés de créer un accès à l'extérieur si jamais il y avait des inondations. Mais bon, faudrait que ce soit des inondations qui viennent par la mer, comme on a connu à Xintia en 2010. Mais enfin, il y a la dune qui nous protège, nous.
Pourriez-vous y vivre ailleurs que dans le marais? Pourquoi?
Oh ben sûrement que je pourrais y vivre, mais j'ai pas l'intention de vivre ailleurs. Non, je suis né là, mais j'ai des enfants qui habitent dans le marais maintenant aussi, donc voilà.
Enfin, pour découvrir toutes les espèces de la faune et de la flore qui vivent dans le marais, nous nous sommes rendus au Davio pour rencontrer Jean-Guy Robin, le responsable scientifique pour le pôle patrimoine de la communauté de communes. Un reportage de Kéane, Lola, Colline et Mathéo.
Quels sont les animaux qu'on peut entendre, qu'on peut trouver dans le marais ?
À mon avis, quand tu te promènes, tu peux identifier plus de 50, voire une centaine d'animaux différents. Donc on peut trouver des amphibiens, des grenouilles et des tritons, on peut trouver des oiseaux, on peut trouver des mammifères.
Que mangent-ils ?
Eh bien, on peut dire qu'ils se mangent entre eux.
Ils mangent entre eux ?
Ils ne se mangent pas entre eux, ils se mangent entre animaux. Un héron va manger des poissons ou va manger des tritons. Le poisson va manger parfois d'autres poissons, parfois des végétaux. La pie, elle mange un peu tout ce qu'elle peut trouver.
Quel bruit peut-on entendre dans le marais ?
Les animaux, souvent, ils font plutôt du bruit la nuit. Et la meilleure solution pour bien entendre, c'est de fermer les yeux. On entend les oiseaux qui crient plus qu'ils ne chantent. Mais en ce moment, on entend une toute petite chouette, qu'on appelle la chevêche, qui chante en ce moment la nuit parce qu'elle est en train de former les couples pour bientôt se reproduire. Vous entendrez peut-être le ragondin crier dans les marais. Ça fait un peu un cri comme ça. On peut entendre le cri du héron. Si on a plusieurs hérons, et bien simplement en enregistrant son cri, on sait si c'est le héron 1, le héron 2, ou le héron 3, ou le héron 4, parce qu'ils ont tous une voix différente. Comme nous, on a tous une voix différente.
Certaines espèces sont-elles en voie de disparition ?
Oui. Dans les espèces qui sont en train de disparaître, souvent, il y a des espèces très communes. On n'y pense pas trop. Par exemple, le moineau. Et souvent, les oiseaux qui sont liés à l'agriculture, ils sont en train de disparaître en France parce que l'agriculture, elle a changé. Et ces oiseaux-là sont plus du tout adaptés à l'agriculture industrielle.
Y a-t-il des espèces envahissantes dans le marais ?
Oui, il y a des espèces exotiques envahissantes. Donc pour vous donner une liste un peu rapide, il y a le rat musqué qui vient d'Amérique du Nord, le ragondin d'Amérique du Sud, le baccaris qui est américain, la jussie qui s'installe dans les fossés. Ce sont les principales espèces envahissantes qui nous créent des soucis actuellement dans le marais. Donc c'est le cas par exemple aujourd'hui pour une espèce que vous connaissez comme le ragondin. C'est une espèce qu'on a ramenée pour faire de la fourrure principalement. Il s'est échappé. Il a trouvé que le marais c'était intéressant, il s'est développé et il n'a pas de prédateur ici. Dans son milieu naturel, le prédateur c'est l'alligator. Il n'y a pas d'alligator dans le marais du Perrier, je crois pas, hein. De crocodile. Non. Donc le ragondin il se développe. Et souvent ça peut avoir un impact sur les autres espèces qui sont présentes dans le marais. Mais en fait on a l'impression que plus on en tue, plus il y en a qui arrivent. Donc aujourd'hui on essaie plutôt de pas faciliter leur installation plutôt que de les tuer.
Le marais a aussi inspiré les artistes de la région. Jimmy, Miguel, Lynn et Miley vous feront découvrir les œuvres de Charles Milsando, peintre soulandais mort il y a plus de 100 ans.
Voici notre description de l'œuvre, La Bourrine dans le Marais, du fameux peintre vendéen Charles Milsando. Cette huile sur toile a été réalisée en 1917 pendant la Première Guerre mondiale et est exposée au musée Charles Milsando, du nom de l'artiste, à Soulan en Vendée.
Nous sommes projetés dans un paysage nuageux et sombre du marais. Au premier plan, des femmes vêtues d'habits d'époque tentent de rejoindre en yol une bourrine encerclée d'eau. Cette bourrine du second plan ressort comme élément principal du tableau par sa couleur marron foncé. Elle constitue une île et semble composée de trois parties. Probablement la maison ou pièce principale, puis dans l'enfilade, un four et une grange. De la cheminée du toit de chaume, fabriqué grâce à des roseaux, sort une épaisse fumée. Deux hypothèses nous viennent à l'esprit. Le feu sert à la cuisson des aliments et ou au chauffage de l'habitat rendu humide et frais par l'omniprésence de l'eau.
À l'arrière-plan, un ciel grisâtre et orageux se confond avec l'immense étendue d'eau et souligne une grande tristesse. L'artiste met en évidence la solitude des femmes qui doivent faire face à l'absence d'un mari ou d'un frère mobilisé à la guerre.
Et pour finir, tendez l'oreille, nous vous proposons une balade sensorielle à la découverte des bruits du marais. Saurez-vous les reconnaître ?
Lola, il y a un ragondin là-bas.
Voilà, nous espérons que le marais n'a plus de secrets pour vous. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.